chapitre 9 de l'œuvre de Chuang Tzu, Zhuangzi, est un petit texte très joli, très poétique, qui dit la nostalgie du monde d'avant la chute, du monde d'avant ce moment où l'homme se met à asservir les choses, les êtres et le monde, où l'homme se met à subjuguer les animaux pour prendre le pouvoir sur eux et aussi sur lui-même. Le mythe est raconté comme l'arrivée de Polo, un dresseur de chevaux qui, le premier, a l'idée de mettre des cordes au cou des chevaux, de mettre les chevaux dans les écuries et de leur faire du mal, de les torturer pour qu'ils apprennent à obéir. Et c'est ainsi que l'homme se met à subjuguer l'animal et à l'asservir. Et au même moment, viennent les autres artisans, viennent les potiers qui réduisent l'argile en poudre et en boue pour en faire des pots. Viennent les menuisiers qui tordent et plient le bois pour en faire des instruments. Et tout à l'avenant, l'homme se met à maîtriser le monde et à l'asservir à ses propres besoins. Et simultanément, l'homme se met à s'asservir lui-même et à se séparer de lui-même. C'est le moment où, raconte le mythe, apparaissent des arts, la musique qui commence à inverser les tons naturels, la peinture qui commence à jouer de façon artificielle avec les couleurs, les lois, le droit, et puis même, dit Chuang Tzu, la bonté et la justice. Toutes choses qui sont bonnes en soi et qui élèvent d'une certaine façon la création, mais qui marquent fondamentalement la fin de l'état de nature, la fin de l'état de l'innocence dans lequel tout cela n'était pas nécessaire. Quand l'homme était vraiment ce qu'il était jusqu'à présent, c'est-à-dire un être indistinct, vivant indistinctement parmi les autres animaux, il n'avait pas besoin de droit. Il n'avait pas besoin de musique, il n'avait pas besoin de justice. Tout cela ne devient nécessaire que dès lors qu'il se sépare d'avec lui-même, que dès lors qu'il a pris conscience de lui-même. Et sous la plume de Chuang Tzu, la chute, c'est ça. C'est ce moment où l'homme se sépare de la nature et où, par la même occasion, il se sépare de lui-même parce qu'il prend conscience de lui-même. C'est un discours très passéiste. On croirait par moments lire de l'Emmanuel Berle faisant un discours pour le maréchal Pétain. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la résonance de ce texte avec d'autres mythes fondamentaux. Ça ressemble beaucoup à ce que la mythologie grecque dit de Prométhée. Ça ressemble de beaucoup, ô combien, à ce que raconte la Genèse du péché originel, d'Ève acceptant de la main, allais-je dire, acceptant du serpent la pomme qui lui permet de prendre conscience d'elle-même, qui lui permet à l'homme de prendre conscience de sa nudité et qui, par cette connaissance, met fin à l'Éden. L'idée, c'est toujours la même. En prenant conscience de soi, l'homme chute. Mais inversement, on voit bien, et c'est là que c'est prodigieux, parce qu'on rebondit sur ces histoires de vibration des choses, et même sur cette histoire de Tsimsum. Ce qui est prodigieux, c'est qu'il est clair que ce que ces mythes décrivent comme la chute est aussi simultanément une naissance et un envol. Sans Ève, nous ne serions pas des hommes. Nous serions dans cet état d'indistinction qui était celui qui régnait dans le paradis terrestre. Sans l'écuyer ou le dresseur de chevaux, Polo, nous serions restés dans cet état d'indistinction, dans cet état animal, dans lequel nous vivions comme ça sans avoir conscience de nous-mêmes. Sans Prométhée, nous n'aurions pas acquis l'outillage et les moyens de dépasser notre propre nature. Ce que les mythes racontent, c'est que en chutant de notre état d'innocence originelle, nous devenons des hommes. Nous arrivons à nous surmonter et à nous dépasser. Et c'est ça qui est profondément passionnant. En chutant, nous naissons. Et il faut cette chute, il faut cette transgression pour arriver à quelque chose d'autre qui est d'une certaine façon notre propre révélation. Nous devenons nous-mêmes à condition d'avoir abandonné ce que nous étions auparavant. Et est-ce que Chuang Tzu pense vraiment qu'il y ait eu une chute? Est-ce que la Bible, est-ce que la jeunesse pense vraiment que la chute soit une chute? Il me semble clair que tous ces textes mettent une telle importance dans cet épisode qu'on ne peut pas vraiment considérer que ce soit seulement négatif. L'homme, il est fait de cette chute, il est fait de cet envol, il est fait de cette transgression sans laquelle il ne serait pas vraiment devenu lui-même. Or, cette transgression, nous ne serions pas devenus des hommes. Il y a dans Vendredi, de Michel Tournier, un passage dans lequel Robinson se retrouve. Il est fatigué, il est accablé, il a passé des journées allant d'échec en échec et il est tombé dans une immense flaque de boue dans laquelle il a trouvé, je ne sais pas pourquoi, de l'air. Il est tombé dans cette fange. Et il s'y sent extrêmement bien. Et il s'y sent comme un enfant dans le sein maternel. Et il pourrait y vivre constamment, et il pourrait sans doute y mourir. Et il pourrait rester dans cet état d'indistinction. Et puis vient un moment où l'effort de survie, ou l'instinct de survie, surmonte le reste et il s'en sort. Et bien voilà un peu ce que serait l'homme d'avant la chute, ce que serait l'homme d'avant Polo et d'avant Ève. On y est tellement bien là-dedans qu'on pourrait y rester, mais en y restant, on s'y perdrait et on mourrait. Et pour véritablement accéder à l'humanité, il faut faire cet acte de violence, cet acte de transgression qui nous fait sortir de nous-mêmes et nous dépasser. Alors la question est, est-ce qu'il faut, pour cette transgression, faire vraiment un acte de violence, notamment sur les animaux? Est-ce que l'homme se définit vraiment par le dressage des chevaux? Est-ce qu'il faut vraiment que Caïn tue son frère pour que nous devenions des hommes? J'espère que non. Mais qu'il faille une transgression, c'est sans doute nécessaire. Et depuis lors, nous sommes à la fois l'un et l'autre. Nous avons des aspirations naturellement vers cet état d'origine. Nous avons des aspirations et des désirs vers cet état de calme et d'innocence dans lequel nous y étions tellement bien. Comme l'est un enfant dans le sein de sa mère, comme l'est un fœtus dans le ventre de sa mère. Mais d'un autre côté, nous sommes aspirés, appelés vers autre chose. Il faut que l'enfant naisse. Et cette naissance se fait dans la déchirure, dans la transgression et la violence. Et nous sentons confusément que les deux sont nécessaires. Et l'homme est divisé entre les deux. D'un côté, il aspire au calme de l'origine, et de l'autre, il aspire à la transgression qui le fait naître en tant qu'homme. Et nous en sommes toujours là. Et le Tzimtzum, c'est aussi ça. C'est aussi l'idée que il faut se décoller, il faut s'arracher, et qu'il y a un arrachement nécessaire, sans lequel les choses ne peuvent pas être. En fait, il y a une pulsation. Et nous sommes tantôt attirés par un côté et tantôt par l'autre. Voilà. Bonne journée.